à cause de ce cube magique, par exemple, il y a certaines recettes qui commencent à être traduites d'une autre manière parce que les épices spécifiques qui faisaient la recette, on ne les demande plus au marché. Donc, ça veut dire que dans les villages, les gens ne les amènent plus ou ne les cultivent plus parce que certaines personnes préfèrent utiliser le cube or.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Élaborer un fond de sauce, faire une marinade épicée, préparer un jus corsé, tout ça prend du temps. Alors pour aller plus vite, au quotidien, on peut avoir envie d'avoir recours à des aides culinaires pour assaisonner rapidement un plat et obtenir un goût savoureux. En cuisine, parmi les saveurs les moins rapides à obtenir, il y a l'umami, ce goût qui fait saliver parce que même après déglutition, il laisse encore sur le palais comme un doux nuage salé. Cette sensation agréable, je la retrouve en moins de 2 minutes lorsque je fais réchauffer du riz de la veille avec un peu de sauce magie, ce condiment liquide si mythique qu'il a même donné son surnom à une herbe aromatique, la livèche, que certains appellent « herbe à magie » car son goût se rapproche de celui du fameux assaisonnement industriel. En Asie du Sud-Est, la petite bouteille à l'étiquette jaune et rouge est un classique des condiments. On la trouve facilement à la table des gargotes de rue, prête à donner du relief aux soupes de nouilles sous la forme de 4 ou 5 gouttes. Mais il n'y a pas que dans ce coin du globe que magie est un acteur incontournable de l'alimentation. Magie est un empire de l'industrie agroalimentaire que l'on retrouve également sur le continent africain. Aujourd'hui propriété de Nestlé, Magie est une entreprise suisse née au 19e siècle. Ses produits phares sont le fameux condiment liquide Magie dont on vient de parler, mais aussi le cubor, ce bouillon cube que l'on peut émietter dans l'eau chaude pour saler et donner un goût d'herbe à un plat qui mijote. Christian Abégan est chef au Cameroun. L'auteur du livre « Le patrimoine culinaire africain » paru aux éditions Michel Lafon raconte que le cubor est partout, en particulier dans la cuisine de rue ou les grandes cantines, lorsqu'il est question de nourrir beaucoup de personnes en un temps limité. À force d'être autant utilisé, le cubor est devenu un goût indispensable, un goût unique, quasi irremplaçable.
Alors le bouillon cubor est pour certains donc une ressource pratique de pouvoir apporter un goût spécifique au plat. Ça a été généré sur la capacité de toutes ces cuisines de rue, qui sont surtout le continent africain. Les cuisines de rue, vous savez, les petits abris où les gens peuvent manger des petites bananes, une omelette, un achiqué. Toutes ces cuisines de rue urbaines, comme elles n'avaient pas la possibilité de préparer des plats avec beaucoup plus de temps, donnaient la possibilité de faire des omelettes, des petits plats rapides comme ça. Donc, il y a une hégémonie par rapport à cela. Mais dans l'imaginaire collectif, pour certains, on ne peut pas cuisiner ou faire un plat digne de ce nom sans le cubor et toutes les implications de ce que c'est qu'un bouillon cube.
Selon lui, les aides culinaires ne sont pas un problème en soi. On peut avoir envie de donner un peu de profondeur à un plat après tout. Mais le problème avec les cubes magie, c'est selon lui celui d'une saveur trop présente qui vient non pas relever les autres, mais plutôt toutes les annihiler.
Il faut revenir à penser que les bouillons cubes ont pour vocation de pouvoir aider, parce que c'est des aides culinaires. C'est-à-dire que bon, nous, en tant que chef, quand on travaille en cuisine, on fait les fonds de sauce nous-mêmes pour essayer d'agrémenter la finition du travail. Donc, c'est un peu quelque chose qui a une certaine logique. Bon, on voit la création de ce cubor, comment c'est arrivé pendant la guerre, etc., avec cette capacité de donner un petit peu de chaleur dans les tranchées. Ça avait une logique, mais bon, comme les propriétaires de cette marque, après, ils étaient obligés de pouvoir continuer à faire leur business même après la guerre. C'est pour ça que c'est descendu donc sur le continent. C'est à deux titres, parce que les aides culinaires peuvent exister. Il faut vraiment pas qu'on se loupe ou dire quand on doit faire une sauce pour 50 personnes ou 20 personnes à la maison, dans un ménage moyen, on n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir acheter autant d'oignons, autant de produits. Les aides culinaires apportent une certaine saveur pratique sur les sauces. Sauf que, et c'est le pourcentage des produits chimiques qui sont mis à l'intérieur, parce que la saveur n'est pas naturelle. Donc à partir du moment, pour bien comprendre le cube, on n'a pas une saveur naturelle. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Ce n'est pas une saveur première, ce n'est pas une saveur naturelle, parce que c'est une saveur issue des résidus de goût de laboratoire. Et on n'a pas la saveur naturelle des produits.
D'autant que l'arôme proposé par la multinationale est particulièrement riche en sel.
on a une saveur qui tronque la saveur pratique et naturelle, mais qui est fixée donc par des éléments chimiques qui sont dans ces produits. Les gens sont habitués à cela. Sauf que, généralement, on peut déshabituer petit à petit les ménagères ou les aficionados de la cuisine à utiliser. Moi, je leur dis, mettez moins, parce que d'abord, c'est hyper salé. Ces cubes qu'on vend, même sur le continent africain, sont beaucoup plus salés, beaucoup plus gros. Or, les ménagères, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent le cube, mais elles salent encore derrière. Donc, elles ont deux fois plus de sel dans les produits alimentaires, dans les sauces, et puis on a toutes ces recrudescences de problèmes liés à l'hypertension. On peut obtenir ces saveurs particulières en laissant mijoter certains produits. L'apport de sucre dans le cube peut être remplacé parce que si vous arrivez à rissoler à feu doux des oignons pendant longtemps, vous les écrasez, vous avez donc un produit de flavonoïde naturel avec un goût naturel. Et le goût du produit naturel dépassera toujours le goût du produit chimique. C'est ça qui est vraiment différent. Mais quand on n'utilise que le cube de la plupart des plats, on a une saveur transitoire qui étouffe la saveur traditionnelle et pure des produits. Les capacités d'accoutumance à cela est terrible parce qu'il y a des pays, par exemple en Côte d'Ivoire, ils ont une semoule, le manioc à la vapeur, ils mettent carrément directement même dans la semoule. C'est devenu très, très grave parce qu'un repas simple, soi-disant, est un repas avec 6 fois plus de doses de sel que c'est immanquablement mauvais pour la santé. Bon, comme les ménagères ont déjà l'habitude sur le continent de pouvoir utiliser, moi je leur dis généralement, au lieu d'en mettre 5, mettez-en 2 hein, et mettez du sel. Le sel est un exorceur de goût et puis et les produits même, les produits qui sont parfois des produits organiques, n'ont souvent pas besoin d'avoir autant de produits chimiques dedans.
Christian Abégan rappelle que l'obésité est aujourd'hui un véritable problème en Afrique. Dans le numéro 423 de la Revue médicale suisse consacrée à l'obésité, on apprend que cette dernière est la conséquence directe du développement socio-économique et des modifications des habitudes de vie qui entraîne une consommation plus importante d'aliments hautement caloriques, accompagnée d'un style de vie plus sédentaire. L'article précise également qu'à cela s'ajoutent, sur le continent africain, diverses représentations et croyances qui favorisent la prise pondérale volontaire. En effet, plusieurs études démontrent que l'obésité est non seulement un critère de beauté, mais aussi souvent perçue comme un signe de richesse et même de bonne santé.
Il faudrait appeler quand même les populations à être interpellé au niveau de la santé publique, parce que c'est un principe de santé publique de savoir s'alimenter et de vérifier d'abord, au regard de cela, la surcharge de sel. On a l'obésité morbide sur le continent africain à cause donc de tous ces produits issus de la mondialisation, parce que l'Afrique culinaire n'avait pas besoin d'additifs de ce niveau-là pour qu'on puisse essayer de les utiliser dans les cuisines qui sont sur le continent africain.
Aujourd'hui, le goût des cubes magie est si répandu que ce produit est devenu un incontournable de nombreuses recettes traditionnelles. Pour Christian Abégan, il y a de quoi parler d'une colonisation du goût.
Elle est nocive pour l'histoire, nocive pour la capacité de transmettre déjà. Parce qu'on a un héritage culturel, culinaire, donc depuis l'aube des temps. Et dans l'histoire donc, de ces cuisines, l'histoire de ces peuples, ces goûts n'existaient donc pas. C'est des goûts transitoires qu'on a apportés à un certain moment précis et qui ont commencé à se répandre. Il est nécessaire de pouvoir revenir à une certaine traditionnalité parce que sinon, on va perdre la quintessence de la qualité de l'histoire de ces cuisines. Elles seront présentes donc là parce que la recette sera donc là, mais le fondement de base de la saveur et du goût aura été tronqué parce qu'on y aura rajouté un élément chimique qui n'était pas là au niveau. Parce que dans les années 30, quand on faisait des plats africains, il n'y avait pas les cubes dedans. Donc, ça n'a rien à faire dans la cuisine africaine.
Utiliser des bouillons magiques pour cuisiner, encore utiliser l'arôme magie pour assaisonner une fois que le plat est à table. De la cuisine au service, la marque magie est partout.
C'est un assaisonnement, en même temps un condiment. C'est pour ça qu'il est auto-présent dans certains. Parce que quand vous voulez consommer des grillades, le cube est toujours là. Parce qu'il y a le cube pour préparer la sauce, il y a la sauce magie. C'est deux éléments qui vont ensemble.
L'une des conséquences de l'hégémonie magie, c'est aussi le risque de voir la demande pour certains autres ingrédients baisser.
Même les recettes que j'ai pu voir dans mes travaux de recherche, j'ai toujours regardé dans la plupart des pays, en tant que globetrotter, comment traditionnellement la recette était faite. Qu'est-ce qu'on y mettait? Et à cause de ce cube magie, par exemple, il y a certaines recettes qui commencent à être traduites d'une autre manière parce que les épices spécifiques qui faisaient la recette, on ne les demande plus au marché. Donc, ça veut dire que dans les villages, les gens ne les amènent plus ou ne les cultivent plus parce que certaines personnes préfèrent utiliser le cube or. Et c'est comme ça qu'on va perdre l'histoire de ces produits qu'on mettait dans les sauces qui donnaient du goût et qui avaient donc des vertus médicamenteuses. C'était souvent des alicaments qu'on rajoutait aussi donc dedans. Donc l'un dans l'autre, on perd au fur et à mesure la trajectoire d'une écriture culinaire parce qu'on y ajoute des éléments, on peut dire de la mondialisation, que cette culture culinaire n'avait pas. Et que les 20 prochaines années, il y aura autre chose qui sera rajoutée et ce sera au détriment de la culture culinaire de cette cuisine et de cette énergie. Parce que le rôle de ceux qui cuisinent et qui enseignent, que ce soit même les rôles dans les ménages, dans les familles, c'est de montrer, d'apprendre, de pérenniser, de vulgariser de manière à ce que la traditionnalité continue. Mais sauf que si cette traditionnalité, à un moment, a un problème, parce qu'on y ajoute des produits qui n'ont rien à faire et qui n'ont pas d'existence légale dans la tradition d'une recette.
Aujourd'hui, en tant que chef et expert de cuisine souvent invité à donner des cours, Christian Abégan fait de son mieux pour sensibiliser les autres aux méfaits des bouillons cubes et leur redonner la joie de cuisiner avec des ingrédients naturels.
Je travaille en tant qu'expert sur ces notions d'alimentation aussi et de nutrition. C'est une passion parce que c'est sûr des anecdotes. Dernièrement, j'ai fait un mariage où j'étais pour 1000 couverts à peu près et avec une équipe de 20 cuisiniers. Et ils étaient tous surpris après. À la fin, quand on a dressé le buffet et tout, etc., je leur ai démontré qu'on peut arriver à faire une cuisine excellente sans utiliser ces produits. Et les mécanismes chez ces cuisiniers qui étaient donc là, ils ont compris. Il est effectif et nécessaire qu'on repense la manière de se nourrir parce que c'est une question de santé publique. On ne peut pas cuisiner une sauce de cacahuètes en rajoutant de l'huile parce que c'est un oléagineux. Dès qu'elle va cuire avec de l'eau, les cacahuètes écrasées, de l'eau, la fin de cuisson va donner donc le corps gras qui va surnager la sauce. Donc, c'est des petites choses comme ça qui permettent à ce qu'on fasse attention et qu'on n'ait pas tous ces éléments qui ghettoisent la cuisine africaine quand on dit « elle est grasse, elle est ci, elle est ça ». Alors, c'est l'application qui peut être faite alors que les corps gras étaient très rares. Et dans les années 20-30, pour avoir un litre d'huile, ce n'était pas facile, mais ils arrivaient à cuisiner. Donc, tous ces produits qu'on a eus facilement et tout, etc., sont arrivés et les mauvaises utilisations de certains cuisiniers et cuisinières ont dénaturé l'énergie culinaire donc, qu'il y avait avant.
J'ai tout de même demandé à Christian Abégan si ça lui était déjà arrivé, dans un moment d'ultime flemme, d'utiliser un bouillon cubor. Cette question l'a fait rire.
Non, même les yeux fermés. Même les yeux fermés, parce que je préférerais à ce moment-là, avoir quelque chose de très simple et de très épuré. Vous savez, si vous prenez juste des légumes, de l'eau, un peu de poisson ou pas, et un sel de mer, quelques oignons, et vous ajoutez un peu de jus de citron, vous avez donc un plat avec des saveurs exceptionnelles. Donc, on ne peut pas penser tout le temps la cuisine avec des saveurs corsées. La cuisine, c'est aussi la capacité d'apprécier des choses simples pour la santé. D'apprécier, d'aller chercher des produits, eux-mêmes, ils ont leur propre saveur. Il faut aller les chercher. Cette utilisation spécifique de ces bouillons, de ces cubes, de ces concentrés, donne toujours une identité culinaire gustative trop prononcée au détriment donc du produit. Donc, si on n'a plus le goût du produit, par exemple, vous préparez un produit, si on n'a plus le goût de la chair du poisson ou du jus, c'est fini, c'est ce qu'on a tué. On n'est plus dans l'écriture culinaire. On doit avoir le goût de l'épice, s'il y en a une, le goût de produit, si c'est du poisson, c'est de la viande, c'est des légumes, et de l'assaisonnement.
Vous l'aurez compris, Christian Abégan préfère un plat moins intensément assaisonné, mais naturel, qu'un plat qui a été saupoudré de cubes magie. Selon lui d'ailleurs, même les autres marques présentes sur le continent africain, telles que Adja ou Jumbo, ont les mêmes défauts.
Effectivement, on trouve certaines initiatives nationales, mais même dans ces initiatives nationales, il y a encore des erreurs spécifiques au niveau du choix de la stratégie et des produits utilisés. Il faut que d'abord ce soit moins salé et qu'il n'y ait pas d'additifs chimiques. Il ne faut pas qu'il y ait le glutamate dedans parce que c'est ce type de produit qui est nocif déjà pour la santé et pour la qualité de ce qu'on peut servir dans la cuisine. Il y a des initiatives qui sont donc réalisées dans les pays parce qu'il y a beaucoup de demandes et puis c'est un marché. Hein, parce que vous savez, sur tous les étals, il n'y a pas un marché qui n'y a pas des bouillons cubes. Mais il y a des artisans ou bien des petites sociétés qui commencent à comprendre qu'ils doivent accompagner donc plus les populations parce qu'on a quand même ce problème lié sur le sel. Comme je dis, on a la chance d'avoir les cuisines vraiment traditionnelles d'implication donc sur le continent africain.
Une situation d'autant plus déplorable que d'après lui, les industriels ont les moyens de créer un produit meilleur pour la santé. mais ne le font pas.
Les multinationales et puis l'environnement même de soutien politique et population, elles ont les moyens puisque c'est la recherche et développement. À partir du moment où elles ont eu la recherche et développement pour pouvoir trouver des substrats de saveurs avec des gommes et puis des saveurs chimiques, on peut faire cela avec des produits dont de qualité. On peut trouver la possibilité de trouver des carcasses, des os, de faire des fonds et de déshydrater cela et de faire des produits. Il y en a déjà qui sont faits, mais ce n'est pas aussi populaire, ce n'est pas aussi populaire que les bouillons cubes. Il est nécessaire d'appeler et puis d'interpeller les multinationales qu'elles puissent essayer de s'adapter puisqu'on trouve toujours des solutions. Il y a eu le Covid et on a trouvé la solution en faisant des vaccins qui sont allés sur toute la planète. Donc, c'est que pour les questions de santé publique, on peut trouver des mécanismes pour pouvoir aménager ces éléments et qu'on puisse essayer de sécuriser la santé des populations, parce que l'espérance de vie sur le continent africain, elle est à près de 45 ou 50 ans à la limite. Et c'est d'abord à cause de tous ces problèmes liés à la nutrition que l'agriculture durable peut produire sans pesticides, sans autres additifs. Et on peut aller là, à ce moment-là, vers une adaptation culinaire pour les 30 prochaines années avec une sécurité alimentaire issue quand même des produits issus de l'agriculture durable.
Alors pour terminer, j'ai voulu poser à Christian Abégan une question pratico-pratique. Comment convaincre quelqu'un de se passer de bouillon cubor? Si l'on veut reproduire exactement la même tonalité de goût, vers quels ingrédients doit-on aller?
Quand vous prenez l'ail, le poireau, le céleri, l'oignon, du sel de mer, et puis vous ajoutez dedans peut-être même une carotte, ces éléments, vous rissolez tout ça à feu doux, avec un tout petit peu d'huile, vous rajoutez un tout petit peu d'eau, vous écrasez, vous avez une base que quand vous allez mettre dans votre sauce, elle aura un goût comme celui-là, mais à base de produits naturels. Donc, souvent, chaque cuisinier a ses secrets pour pouvoir rendre la sauce beaucoup plus goûteuse et y affairer quelques épices. Mais le problème, c'est le temps. Parce que si on pense qu'on va faire une cuisine en 5 minutes, 10 minutes, effectivement, les additifs alimentaires sont là pour cela. Mais si on fait une cuisine avec tout le temps nécessaire pour que les saveurs des produits utilisés se développent avec dont les épices et le reste, on arrive à un goût qualitatif et une saveur qualitative qui anoblit et rassure et rend le plat exceptionnel.
Ailleurs sur le continent africain, au Sénégal, la chercheuse Salimata Ouad fait remarquer que l'usage généralisé des bouillons cubor a pour origine la crise économique. Elle écrit « Ce n'est pas facile avec une maigre somme de préparer du riz pour plus de 15 personnes avec seulement 1 kg de viande ou peu de poisson. Tout est cher au marché. Des sardines qui se vendaient à 50 francs par pièce s'échangent aujourd'hui à 500 francs. Elles n'ont souvent pas le choix », explique-t-elle. Pour résoudre une difficile équation, écrit-elle, la ménagère n'y va pas par quatre chemins. Elle se rabat sur les multiples bouillons qui donnent le goût du poisson, de la tomate, des épices, de la viande ou des légumes. Merci à Christian Abégan de m'avoir donné de son temps pour parler de bouillon magie. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.